ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Le témoin de ce vendredi, Jean de Boishue, qui a été membre d'un gouvernement.
L'État, c'est devenu une misère. Une vieille godasse qui prend l'eau de partout. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de puissance.
Il nous reste quelques prérogatives.
Oui, oui, du pouvoir, il y en a, oui, je dis pas, oui. Mais c'est quoi du pouvoir sans la puissance d'agir? Qu'est-ce que ça crée comme légitimité? Je te pose la question. Je te pose la question parce qu'elle me hante, Gilles. Elle me hante!
Le cabinet, c'est un métier que Jean de Boishue a pratiqué depuis la plus haute antiquité, 1969. Depuis, l'exercice de l'État, c'est comme rétréci. On a entendu en exergue de l'émission un extrait du film qui porte ce titre. Le dernier patron de Jean de Boishue, François Fillon, a même employé le mot « faillite ». À l'époque où celui-ci était Premier ministre, l'action de Matignon, il est vrai, était entravée par les obstacles dressés par l'Élysée. C'était sans cesse en voie de peau de banane et de colis piégés. Pourtant, si c'était un enfer, il était pavé de belles réceptions et surtout de bons sondages. Boishue s'y tenait souvent dans la position du sachem, l'oreille collée à la terre pour deviner les tendances politiques et sociales à venir. On lui prêtait aussi volontiers un statut d'intellectuel, pas très difficile à obtenir, dans cet endroit qui n'en voyait jamais aucun. Hors des cabinets, il avait en effet eu une autre vie, agitateur d'idées, directeur de revue. Jean de Boishue, enfin, a été longtemps un Bretignolais de Bretigny-sur-Orge, département de l'Essonne, dont il fut l'élu pendant une quinzaine d'années. Coincé dans des bureaux où on voit toujours les mêmes gens, il regrettait souvent la vie de maire et rendu maintenant au loisir studieux. Il peut traîner le nez en l'air et faire ce qui l'amuse.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Et même, bonjour Jean de Boishue.
Bonjour Jean Lebrun.
Et même écrire.
Et même écrire. C'est un vrai bonheur.
J'ai plomb anti. Secret, il y a toujours une sympathie dans tel ou tel de vos livres. Enfin, vous en avez fait que deux, à ma connaissance. Vous étiez peut-être un peu paresseux.
Très.
Oui. Il y a toujours une sympathie pour les perdants.
Oui, oui, parce que les cabinets ministériels, ce n'est qu'un aspect de la vie. Et surtout parce que j'ai eu une enfance très difficile. J'ose pas dire pauvre, parce qu'il y a des gens qui ont des vies tellement plus pauvres, mais une enfance très difficile. Et j'ai vécu parmi des amis, des camarades, des gens que j'ai rencontrés qui ont eu des vies aussi très difficiles. Et je pense souvent à eux. Alors si c'est eux les perdants, oui, parce que la vie a souvent été pour eux injuste ou difficile. Eh bien, je suis toujours solidaire de ces gens-là. Et j'espère que je les ai pas quittés.
Alors les perdants, ça peut être les Russes blancs. Familialement, par votre mère, vous appartenez à ce milieu. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs votre mère. L'introducteur, vous le connaissez à la perfection, et le lieu aussi, c'est la maison de retraite russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.
À la maison russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, les exilés qui s'étaient retirés pour y mourir ont peu à peu emmené avec eux la Russie blanche dans son dernier sommeil.
Des aristocrates, des gens de l'armée, des danseurs, des musiciens, des peintres, des prêtres, des moines, nous avons eu tout. Les Obolensky, les Troubnikov, les Nirt, les Troubetskoy, la femme de l'amiral Kolchak, la femme de Stolypine, la femme de Koutiepov, les Osnitsakhin, les Moussin Pushkin, les Danzasn, la doctoresse Madame Bakounine. Les Varantsov et le peintre Stiletsky. Nous avons eu tout le monde. C'est un échantillon de la vie du monde, naturellement. Il y a tout. Il y a des haines, il y a des affections, il y a des amours, il y a des complications effrayantes, surtout quand il faut les loger. Ils se disputent, ils sont d'abord politiquement divisés. Ils ont des convictions qu'ils ne quittent pour rien au monde. Et alors ça rend les choses un peu difficiles.
Avant d'être Madame de Guéhenoc de Boishue, votre mère, interrogée ici par Frédéric Mitterrand, c'était en 1999, était
c'est un souvenir très émouvant.
Mestcherski.
Oui, mais je vais vous surprendre. Ma mère était française, à 100%. C'était mon père que j'ai jamais connu qui était russe. Et ma mère a eu pour la Russie, pour son mari, pour la langue russe, une véritable passion. De sorte que cette Française de Saint-Malo, on ne peut plus bretonne, a totalement épousé la cause russe, au point où elle m'a embarqué sur ce navire qui sombrait, donc on ne voyait plus que les mâts, et j'ai passé mon enfance dans ce minuscule pays qui était la Russie en exil en France, avec des gens d'un autre monde, d'une qualité d'âme exceptionnelle et que l'histoire a effacé. Des tablettes.
Alors, vous avez été agrégé de russe.
Vous écriviez parfois en russe à Jacques Chirac ou réciproquement ?
Oui, ça arrivait. Quand j'arrivais au Conseil des ministres, Chirac me saluait toujours en russe et me demandait toujours mon sentiment sur une traduction qu'il avait faite de Jean Onéguine. Voilà. Donc,
Professeur de russe de Jacques Chirac est enterré non loin de la maison de retraite qu'a dirigée votre mère et vous l'y avez mené il y a peu d'années.
Alors, j'ai un jour Jacques Chirac, relativement récemment, il y a 2 ans, m'a téléphoné, et il m'a fait téléphoner en me disant « je voudrais retrouver la tombe de mon professeur de russe, Monsieur Belanovitch ». Monsieur Belanovitch était un russe immigré qui vivait pratiquement au sous-sol de l'immeuble où vivaient les parents Chirac. Et Chirac avait pour ce professeur de russe une énorme estime et une très grande affection. Et je crois que tout cet amour de l'Orient, en fait, qu'on connaît à Chirac, vient de ce professeur. Qui lui racontait les grandes épopées, les grandes invasions. Donc, je me suis mis en chasse, d'ailleurs je l'ai fait avec mon fils, de retrouver cette tombe, et nous l'avons retrouvée. Et donc Jacques Chirac est venu sur sa tombe, avec quelqu'un qui est très proche de lui, avec le grand rabbin Corsia, et c'est un moment extraordinairement émouvant, parce que faisions-nous là tous les trois ? Et Chirac a demandé à monsieur le grand rabbin de réciter la prière des morts. Après, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « récite la prière des morts des Russes ». J'ai pas besoin de vous dire quel souvenir je garde à ce moment, mais j'ai surtout vu un Jacques Chirac dans un monde qui était à lui, qui était précieux. J'ai parlé de la paix des cimes, il a retrouvé une espèce de sérénité. Et l'ambiance était extraordinaire, il faisait presque nuit, il faisait très froid, et nous avons fait une concélébration étrange. Et puis il est sorti de la rangée des croix byzantines qui étaient là, il faisait presque nuit, il s'est retourné vers moi, il m'a dit « Jean, et maintenant il faut boire, il faut boire à sa santé ».
Puisqu'on est dans des moments crépusculaires, je vais vous faire écouter votre ami François Fillon évoquant, le jour même de sa mort, votre autre chef de file dont vous étiez beaucoup plus proche, en fait, que de Jacques Chirac, je veux dire Philippe Séguin, qui est mort en 2010.
À l'aube, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Philippe Séguin. Hier matin, il était ici même. Et je voyais encore dans ses yeux cette ironie tendre qu'il me réservait en me voyant assumer mes fonctions de Premier ministre, lui qui me regardait toujours comme le jeune parlementaire qu'il avait choisi de prendre sous son aile. Aujourd'hui, je perds un ami et la France perd l'un de ses plus grands serviteurs et l'une de ses plus belles voix politiques. La République était le fil de la vie de Philippe Séguin. Ce matin, ce fil s'est rompu et je pense avec émotion à sa famille.
Et le Premier ministre, il était alors de replier ses feuillets, extrêmement ému. À la réflexion, vous, Jean de Boyeux, vous lui en voulez d'être mort, à Philippe Séguin.
Oui, et c'est paradoxal de dire qu'on en veut à quelqu'un d'être mort. Oui, je lui en veux de mourir parce que... Il nous a tout appris, tout. Il avait un avenir extrêmement brillant. Et je considère qu'il est mort, il nous a abandonnés parce qu'il s'est laissé aller. Il faisait pas attention à lui, il mangeait trop, il buvait trop. On lui disait non, mais il avait une telle mésentente avec lui-même, je dis que c'est un mélange entre Jaurès et Ablamov. Il y avait un côté chez lui extraordinairement rigoureux et d'un autre côté une espèce de fatalisme dans la vie. Eh bien oui, j'ai dit je lui en veux parce que quelque chose s'est cassé. Alors je pense que pour la France aussi. Et j'ai voulu beaucoup le dire. J'ai voulu beaucoup. Alors il y a des gens qui m'ont dit comment tu peux dire ça. Eh bien oui, oui, j'étais très proche de Philippe Séguin. Il ne m'a jamais fait de cadeau. Il m'a fait énormément travailler. À chaque fois que je venais le voir, il exigeait des choses, il corrigeait mes textes, il m'envoyait des choses à la figure. Et pourtant, quelle tendresse il avait. Quelle tendresse. Voilà.
Vous n'avez pas expliqué qui était Oblomov. Vous avez aussi un côté Oblomov. Oblomov, c'est celui qui se laisse aller.
Celui qui vit allongé sur un divan. Celui qui ne sait pas aimer la vie, qui n'aime pas être joyeux dans la vie, qui ne sait pas l'être. Je raconte dans le livre comment, à l'enterrement de Philippe Séguin, Sarkozy a fait un discours remarquable aux Invalides. C'était un grand enterrement, etc. Et puis à la fin de son discours, il a dit au fond, Philippe, ce qui est bien, t'as une vie heureuse. Non, il n'a pas eu une vie heureuse. Non, il n'a pas une vie. Il a eu toujours un problème avec lui-même. Il se trouvait pas beau, trop difficile. Il était extrêmement critique. Et il était très difficile avec ses amis, parce que ses amis lui disaient ça. Ils lui disaient, Philippe, vas-y, fonce, sois courageux. Voilà. Mais je garde tout ça au fond de moi. Et c'était des heures formidables.
Mais
et
plus généralement, Jean de Boileau, c'est l'échec, dites-vous, d'une génération qui aurait pu faire bouger la France comme on bougeait. Différemment. Oui. L'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Je l'écris, effectivement. J'appartiens à une génération formidable. J'ai connu la fin de l'Union soviétique, l'effondrement des idéologies. J'ai connu l'arrivée d'une gauche puissante au pouvoir. J'ai connu Chirac nous mobilisant, nous partions comme des hussards à l'assaut des bastions. Quand le président Mitterrand a pris le pouvoir le lundi matin de sa victoire, le lendemain, Guichard, qui était mon patron, Olivier Guichard, un compagnon du général de Gaulle, m'a dit... On arrête les bureaux, on va sur le terrain, toi tu vas à Brétigny, et moi je vais à la Baude, à la presqu'île de Guérande. Nous sommes séparés. Et je lui dis, monsieur, on se retrouve à la victoire. Oui. Eh bien, je trouve que cet élan, on aurait pu faire une France qui aurait été beaucoup plus audacieuse. Car nous étions, pardon, je le dis, mais j'ai le droit, nous étions audacieux. Nous n'avions pas peur, nous ne cherchions pas des postes vraiment, nous les gagnions à force de bataille.
Écho de cette génération, écho d'hiver, vous évoquiez le président Mitterrand, ça c'était un hymne, on va commencer par lui, du Parti Socialiste. Et puis on entendra un peu plus tard une chanson dédiée au RPR, ainsi qu'on appelait le mouvement gaulliste à l'époque.
Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant.
Les bourgeois ne sont que des bandits. Ils voient les tuer les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Frères et sœurs de la classe ouvrière, les capitalistes vont trembler devant notre colère. Comme une masse, nous lèverons pour briser à jamais les chaînes.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec ce vendredi, un témoin, Jean de Boileau, qui publie chez Plon, Anti-secret, qui fut ministre de Jacques Chirac, président, bouffeur de communistes aussi, vieux mangeur de rouge, et vous avez réussi à les déloger. On a entendu une chanson communiste de ces années-là, en 1984, de leur vieux fief indéracinable de Brétigny-sur-Orge.
Oui, j'ai pris un fief communiste, j'y suis allé parce que j'avais envie de vivre la vie politique, et comme j'étais au fond élevé comme un petit étranger, je me suis dit que la meilleure façon d'être accepté par la France, c'est d'être son élu. Et finalement, mon vrai baptême, ça a été ma victoire politique. Alors j'ai combattu les communistes, qui étaient des adversaires extrêmement rudes, durs, pas toujours loyaux. Et raconter l'épopée de ces élections, j'en ai eu beaucoup. Et personne n'y croira. Voilà. Mais je veux dire simplement que, au corps à corps avec les communistes, je le dis parce que j'ai quelques contacts encore avec le parti, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, les adversaires doivent s'estimer. Et j'ai une certaine estime pour le Parti communiste, qui n'existe plus, bien sûr, mais j'ai une certaine estime pour, en général, et ça je crois que c'est mon côté politique, j'ai une estime pour des militants. Et les communistes étaient des vrais militants.
À Matignon, où vous êtes 5 ans, vous racontez ça dans Anti-secret, qu'on n'attend pas de révélation, évidemment. Ce midi, vous faites figure de vieux sage parce que vous avez été maire. Vous regrettez d'ailleurs souvent le terrain. Vous faites figure aussi d'intellectuel. C'est facile de faire figure d'intellectuel à Matignon, dites-vous. On n'en voit jamais aucun, vraiment.
Oui, enfin, j'ai dit ça. Je pense qu'effectivement, je pense que on a besoin d'intellectuels, on a besoin d'idées, on a besoin d'enrichir ses idées, ses discours, ses comportements. Et c'était pas une préoccupation à Matignon. C'était mon désespoir. Mais quand je disais ça, on me disait il y a d'autres endroits pour voilà. Et j'essayais toujours. Alors quand on faisait les discours avec mon cher ami Igor Mitrofanov, qui est un génial rédacteur, qui participait, qui était un des initiateurs des discours de Fillon, nous essayons toujours d'introduire des éléments qui permettaient l'idée que la France devait avancer, qu'elle devait combattre pour des idéaux. Oui, mais j'étais un peu seul, c'est vrai.
C'est-à-dire que quand vous parlez à la ministre de la Culture de l'époque de Stendhal, elle coupe court alors qu'elle connaît Stendhal par cœur. Et François Fillon, dites-vous, il arrive à attirer son public en racontant l'achat d'une tronçonneuse à Carrefour, à Sablé-sur-Sarthe.
Oui, mais pas par le débat d'idées. Ça, c'est l'ère du temps, n'est-ce pas ? L'administration se méfie des intellectuels. C'est curieux d'ailleurs, parce que pour moi, qui vient d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, la France est un pays d'intelligence. D'abord un pays d'intelligence. Je pense que la dialectique gauche-droite, révolution contre révolution, c'est ce qui fait avancer ce pays. Mais l'administration se méfie de ces gens-là. Ils trouvent qu'ils coûtent beaucoup trop cher, qu'ils parlent pour rien. Et que quand on met la casquette de fonctionnaire, lorsqu'on se met en bleu de chauffe d'administrateur ou de ministre, on fait pas ça. On le fait chez soi, on écrit, mais on fait pas ça. Et Christine Albanel, qui est une vraie intellectuelle, il y a rien à dire. Eh bien non, elle n'abordait pas ces sujets. Et moi, j'étais là un peu naïvement, parlons de ceci, voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup ces thèmes, voilà. Donc, non, c'est pas là où je piochais mes joies littéraires.
Mais on avait raison de se méfier de vous, parce que vous êtes un sacré agitateur. Oui. Tous les soirs, vous donniez rendez-vous aux journalistes. Il y avait un verre de whisky avec 3 glaçons dans un hôtel voisin de Matignon. Absolument, et là, qu'est-ce que vous ne pouviez pas dire sur les rapports entre l'Élysée de Nicolas Sarkozy et le Matignon de François Fillon, que vous compariez, alors tout le monde ne va pas comprendre, il va falloir que vous expliquiez, au Grand Canal, ça c'est l'Élysée, et à Port-Royal, ça c'est Matignon. Voilà. Et on est au XVIIe siècle.
Mon idée était de dire qu'il fallait expliquer que nous nous battions vraiment pour le projet que Fillon et Sarkozy avaient construit ensemble pour la campagne électorale. Et c'est ce projet-là que Nicolas Sarkozy avait abandonné. Et Fillon, lui, continuait. Il espérait. Quand il a dit que la France était un pays en faillite, il voulait provoquer un choc pour dire maintenant ça continue, on se met au travail. Et finalement, c'est jamais arrivé. Donc moi, j'ai mené une action subversive, entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, je disais, il y a un type qui bosse, il y a un type qui essaye d'y arriver, il y a un type qui croit à des choses, et puis nous, les autres en face de nous regardent et ils sont partis dans les limbes sur des considérations mondialistes, etc. Donc j'ai fait de l'agitateur à l'intérieur, et je me faisais taper sur les doigts, et à l'extérieur, en disant aux journalistes, mais surveillez Fillon, c'est lui le bon. D'ailleurs, j'étais d'autant plus encouragé que l'opinion publique, à partir de 2008, a largement soutenu Fillon, et il est devenu beaucoup plus populaire que Nicolas Sarkozy, et leurs courbes se sont croisées. Et mon seul mérite, c'est d'avoir dit le premier jour, je dis bien le premier jour, j'ai dit à Fillon, on va pas dans le mur, on est dans le mur.
Est-ce que je peux vous proposer d'écouter une scène réalisée à peu de frais par Alain Cavalier dans un film qui s'appelle Pater et qui imagine dans une salle à manger, celle d'Alain Cavalier, les rapports d'un premier ministre, Lindon, et du président Cavalier. Il vient un moment où le premier ministre, Lindon, agacé de ne pas pouvoir faire les réformes fondamentales, arrive avec une lettre de démission.
J'écris une une lettre de démission au président. Et je voulais vous la lire, vous me disiez ce que vous en pensez. Monsieur le président, je vous propose ma démission de Premier ministre de votre gouvernement. Vous et la majorité m'ont répété que j'étais le meilleur candidat pour l'élection présidentielle et je m'y suis préparé avec votre aide. Aujourd'hui, ceux qui nous ont soutenus me demandent, et vous, de reculer sur la loi des salaires. Il m'est difficile de laisser tomber une loi faite pour améliorer les rapports entre les hommes. Je compte consacrer toute mon énergie pour que cette loi entre dans le cœur et l'esprit des citoyens. Pour cela, je me présenterai seul face aux électeurs et en dehors du soutien de la majorité qui devra se trouver un autre candidat. Monsieur le Président, merci d'être venu me chercher pour remplir une mission. Je ne peux que poursuivre. Je voudrais que tous comprennent que je ne divise pas. J'ouvre les portes de la vie, je ferme celles du repli et de la peur. Soyez, Monsieur le Président, totalement sûr.
Pendant que Pater imaginait cette scène, vous en viviez une que vous racontez dans l'Antisecret, assez largement comparable, c'est à l'automne 2010, et il est question, entre le Premier ministre et vous, de la démission du Premier ministre.
Il n'est pas vraiment question de la démission. D'abord, je voudrais bien être clair sur un point, Fillon ne songe absolument pas à démissionner. C'est toute la différence qu'il y a avec Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, où Chirac s'en va parce qu'il a un parti politique qui le soutient. Fillon n'a ni réseau, ni trahison, ni projet, ni rien du tout. Il est là, il assure le boulot, il n'a aucune envie d'abandonner le boulot et ses responsabilités en race campagne. Effectivement, je reçois un coup de téléphone d'un ami qui me dit « j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy qui voudrait savoir si François Fillon veut rester Premier ministre ou il veut s'en aller parce que je ne comprends pas sa position ». En fait, il n'y avait pas de position de Fillon qui est autre que celle de la loyauté. Et donc, je vais le voir. Et je lui dis, écoute, voilà, je viens de te dire des choses extraordinaires. Est-ce que tu as envie de rester à Matignon ? Alors, il commence par vouloir me foutre à la porte, parce qu'il trouve que cette question et ce contexte est assez curieux. Mais on engage une conversation. Il me dit... ma vie est un enfer ici, on m'empêche de travailler, je suis là pour progresser, je suis là pour la réforme, je crois à la réforme, martelait-il, je crois à la réforme. Et lui, il est parti dans le monde entier, ça l'intéresse pas, il m'ignore, etc. Donc il fait un trait numéro. Mais je lui dis, mais François, qu'est-ce que tu sais faire d'autre que de la politique? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Mais tu as une responsabilité à assumer, il faut que tu restes. Il m'a dit, je vais réfléchir, donc on s'engueule un peu comme ça. Et il me dit, bon, maintenant c'est fini, on a déjà discuté trois quarts d'heure, j'ai pas le temps, et ça. Je dis, non, je partirai pas. Non. Je me suis assis sur son bureau. J'ai dit, tu me réponds oui ou non, mais je veux que ça soit oui, je reste. Il m'a dit, tu m'emmerdes, c'est oui. Je suis sorti, j'ai téléphoné à mon ami en lui disant, tu peux téléphoner à Sarkozy, c'est oui.
Ah, Sarkozy, c'est lui. Lui qui parcourt le monde et qui dit que la France doit être l'arme de la nouvelle renaissance dont le monde a besoin. Il paraît qu'il suffit d'un mot pour vous mettre en colère. Politique de civilisation. Qui illustre cette définition.
Oui, mais c'est des grandes phrases qui ne recouvre aucune réalité sociale, politique, les besoins, la croissance, l'attention qu'il faut porter aux gens, les besoins de décentralisation. Ce pays avait vraiment besoin qu'on se penche sur lui, qu'on partage avec lui. Alors je reconnais, vous ne m'empêchez pas de le dire, que Nicolas Sarkozy a admirablement géré la crise monétaire. Mais moi, je ne supportais pas ces espèces d'envolées lyriques où on faisait de la géostratégie, de la géoreligion. On passait à côté du sujet et on s'improvisait un rôle qui n'était pas le nôtre.
Et surtout, après les envolées lyriques, atterrissaient sur votre bureau des dossiers bien complexes. Je voulais qu'on en évoque un qui vous a beaucoup occupé, c'est l'idée de créer une maison de l'histoire de France, beaucoup plus importante que la modeste exposition permanente de l'hôtel de Soubise à Paris, Archives 2010.
Un musée pour l'histoire de France. Nicolas Sarkozy défend le projet depuis son élection. Après trois rapports et les sites des Invalides, de Versailles, de Fontainebleau passés au crible, un lieu parisien est finalement désigné.
Nous avons décidé de retenir comme siège de cette nouvelle institution le site des Archives nationales.
Au site central, on va trouver une galerie chronologique, on va trouver un endroit où on peut faire des grandes expositions temporaires.
Un groupe d'historiens s'interroge cependant sur la pertinence de cette organisation et s'inquiète d'une possible instrumentalisation de l'histoire.
Qu'est-ce que l'on va mettre ou dans le musée. Alors est-ce que c'est le français avec le béret basque et la baguette qui va sortir du bois, ou est-ce que c'est la galerie des grands héros historiques comme on pourrait le retrouver dans le petit manuel de Lavis des années 1894 ?
Pour réfléchir à cette délicate question du contenu et éviter le débat politique sur l'identité nationale, un conseil composé d'historiens et de conservateurs sera mis en place à la fin du mois.
Et là aussi on ira dans le mur, on était déjà dans le mur au moment de ce reportage où on a entendu l'historien Daniel Roche parler du contenu, mais rien que le choix du lieu montrait les contradictions du projet.
J'explique dans Anti-Secret que j'étais contre ce projet. Alors c'était très difficile d'être contre, parce que d'abord j'étais quand même un fonctionnaire loyal et c'était un dossier en principe technique, et que Fillon était pour, Sarkozy était pour, et qu'une belle unanimité flottait au-dessus de Paris. En réalité, j'étais sûr que les Français ne seraient jamais d'accord sur une formule unique du musée. Moi, je me disais, mais pourquoi dans le monde entier, dans les capitales du monde entier, existent des musées et pas chez nous ? Mais parce que chez nous, l'histoire n'est jamais terminée. Parce que les gens ont une lecture de la Révolution française, d'Austerlitz ou de Waterloo ou de la Commune, tout à fait différente. On est des gens qui réfléchissent en avance. Pour nous, l'histoire, c'est pas quelque chose de figé. L'histoire, c'est pas un couloir dans lequel il y a des vitrines, on dit oh c'est beau. Ah, il y a des musées militaires,
De musées militaires, vous citez la réaction d'un officier maison militaire du président de la République qui en dit long.
Alors, je vous raconte maintenant. J'espère que je raconte maintenant dans le livre comment ça s'est passé réellement, parce que j'ai essayé de me tenir un peu à carreau en expliquant à mes chefs que c'était on allait dans le mur, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, bien entendu. Non, on était...
Qu'est-ce qu'il dit, cet officier ?
Alors, on était à une réunion à l'Élysée, où brusquement le problème du lieu se pose, et les Invalides ont été avancés comme un des projets. Et donc, il y a un militaire, très haut gradé, bien connu d'ailleurs, qui dit à un moment, « Ah ! Jamais l'histoire de la Commune ne côtoiera l'histoire de notre armée. » J'ai dit, mon général, vous venez de condamner le musée d'histoire de France. Guéant m'a fusillé du regard.
Pierre Nora, qui a pris des positions souvent difficiles à lire dans ce dossier, je voudrais finir avec lui. Il parle des intellectuels d'aujourd'hui. Le dossier qui vous intéresse le plus, peut-être encore, Jean de Boyu. Il dit, employant des mots russes, « Il y a une basse intelligentsia ». Je le cite, qui continuera à rester fidèle à ses vieux fondamentaux. Nicolas Sarkozy parlait aussi de basse intelligentsia, de gauche si vous voulez. Puis il y a une haute intelligentsia qui obéit à un lent glissement de terrain et qui vient vers des valeurs plus conservatrices. On sent ça.
J'aime pas beaucoup cette distinction, ça me rappelle un peu Monsieur Raffarin de la France d'en haut et de la France d'en bas, excusez-moi, du parallèle. Moi je dis que l'intelligence française est unique et indivisible, mais je constate deux choses, c'est le glissement de la pensée vers la droite, la pensée est devenue conservatrice, et la disparition effectivement des intellectuels qui font avancer le patrimoine culturel et intellectuel de ce pays. Je le sens comme ça. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je l'ai beaucoup ressenti en politique. Et effectivement, intellectuel est devenu quelque chose de, au fond, de négatif. Quelqu'un qui était décalé par rapport à son temps. Eh bien, je ne me suis jamais senti décalé, vous voyez.
Merci à vous, Jean de Boyu, qui publie Anti-Secret chez Plon. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Ilinka Negulesco, Lola Lafont, Franck Olivard, Frédéric Martin et à la technique, Mehdi Fatah.
Merci beaucoup.
Et merci à vous Jean Lebrun. On vous retrouve lundi prochain en compagnie de l'ancien pilote de ligne Gérard Felzer. Il sera question dans la marche de l'histoire de la Caravelle. À suivre, la tête au carré Mathieu Vidard.